Quand je regarde la semaine qui vient de s'écouler, quand je vois ce qu'on a vécu durant toute la semaine, à chaque séance, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est ça. Et encore, je suis hyper gentil, j'ai l'impression qu'en plus du cycle essorage, il devait y avoir un mec qui tapait sur la machine avec un marteau et qu'en plus, la machine était en train de tomber en bas des escaliers. Bref, on s'est fait secouer toute la semaine et même si le Dow Jones finit au-dessus des 50 000 pour la première fois de son histoire, on a quand même un arrière-goût bizarre de s'être fait arnaquer par le marché. Chaque jour de la semaine qu'on vient de vivre, on a eu l'impression de s'être fait avoir. Chaque matin de la semaine, on l'a commencé avec le sentiment inverse du résultat à la clôture. Si on m'avait demandé de faire des prédictions chaque matin de la semaine dernière, je me serais gouré tous les jours. En général, dans le monde merveilleux de la finance et du trading, on a au moins la chance d'être juste une fois sur deux. Les meilleurs sont juste 6 fois sur 10 et leur talent vient surtout du fait d'être capable de se couper sur les 4 fois où ils ont tort. Mais par contre, là, cette semaine d'essorage que nous venons de vivre, il y avait largement de quoi se faire prendre à contre-pied absolument à chaque instant de la semaine. Pourtant, à la fin, le seul truc qui a vraiment fonctionné, c'est l'éternel, le fabuleux, le fantastique, l'extraordinaire Buy the Dip. On revient donc sur ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde à notre connaissance entre le 2 février et le 6 février 2026, juste après le générique. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Bayet et nous sommes le 7 février 2026.
Cette émission vous est présentée par Swissquote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors oui, je sais, le S&P 500 n'est pas au plus haut de tous les temps, mais le Dow Jones, lui, il y est. Pourtant, on va dire que vendredi matin, en constatant que le S&P et le Nasdaq étaient sous la moyenne des 50 jours, que la tendance haussière avait cédé et que l'ambiance était pourrie, on n'aurait pas spécialement parié là-dessus. Et pourtant, on aurait dû. Le rebond de vendredi aura donc été, c'est le moins qu'on puisse dire, spectaculaire. Le meilleur exemple, c'est peut-être Nvidia. Nvidia qui a vécu 4 jours tout pourri, parce que l'IA, c'est bien, mais c'est trop cher, et il y a trop d'investissements dedans, et que ça risque de prendre beaucoup plus de temps que ça pour être rentable. Et en une séance, Nvidia a rebondi de pratiquement 8%, et tout a été récupéré, retour à la case, lundi matin, plus ou moins. Ce marché est donc drivé par des algos, et je ne peux pas croire qu'il y ait encore la moindre réflexion humaine là-derrière. Donc, à l'image de Nvidia, cette semaine aura été très, disons, remuante, dans tous les sens, entre panique sur les softwares qui vont se faire grand remplacer et les capex sur l'IA qui explose mais qui commence à inquiéter au sujet du retour sur investissement, mais aussi le shortage sur la mémoire qui commence à être le grand danger pour certains et la machine à pognon pour d'autres, les swings sur les métaux précieux qui vont dans tous les sens et qui sont devenus des mêmes stocks, le pétrole qui se comporte comme une balle magique en attendant de savoir si les mollas vont accepter les conditions des Américains. Conditions qui, il faut le dire, peuvent paraître totalement irréalistes. Qui peut croire que le gouvernement iranien va accepter de baisser son pantalon à ce point? Demander à cette équipe de bras cassés d'arrêter de financer le Hamas et le Hezbollah, c'est comme si on leur demandait de sortir habillé en rose avec un turban aux couleurs LGBT sur la tête, tout en chantant la chanson « Femme libérée » de Cookie Dingler en direct sur CNBC. Et puis, il y avait aussi le Bitcoin qui s'est fait littéralement démonter et qui a continué sa chute entamée le 29 janvier. Le Bitcoin qui a touché les 60 000 $ dans la nuit de jeudi à vendredi avant de repartir comme une balle magique. Il nous a donc fait une démonstration du concept de la gravité. Et quand le Bitcoin décide de redécouvrir le concept de pesanteur, eh bien ça ne se fait jamais en douceur. C'est plutôt l'équivalent financier d'un type qui rate la première marche de l'escalier dans le noir. Ça va vite, ça surprend tout le monde, et surtout ça réveille brutalement ceux qui dormaient sur leur certitude haussière. Peut-être qu'on avait simplement pris un peu trop la confiance, on entendait un peu trop de gens en parler avec assurance et certitude, c'est devenu une asset class qui ne pouvait que monter, il suffisait simplement d'attendre et de moyenner quand ça baissait un petit peu. C'était la nouvelle ère, une réserve de valeur ultime, en gros, bah cette fois, c'était différent. Traduction. Tout le monde était du même côté du bateau, et en finance, quand le bateau commence à prendre du gîte, c'est jamais une bonne nouvelle. La première fissure a été technique, cassure des supports, déclenchement des stops, algo qui vendent plus vite que la lumière, effet boule de neige classique, la baisse crée la peur crée la vente crée encore plus de baisse. Rien de nouveau sous le soleil, sauf que sur le Bitcoin, tout est amplifié et tout va encore plus vite. Et je vous parle même pas du nombre de produits qui étaient en levier et qu'on en pris plein la gueule. C'est le vrai carburant de la chute et c'est ça le climat général qui pesait sur le Bitcoin. Le Bitcoin adore jouer l'actif rebelle, mais dès que l'appétit pour le risque se contracte, bah, il redevient ce qu'il est, hein, un actif spéculatif sous stéroïdes. Les marchés commencent à lever le pied, les investisseurs sécurisent et soudain, la crypto n'est plus ce ticket magique to the moon. Et c'est la position qu'on allège en premier. Ajoutez à ça des sorties de capitaux sur les produits institutionnels et on obtient un cocktail parfait, moins d'acheteurs, plus de vendeurs et un marché qui glisse. Et puis, n'oublions pas non plus qu'on avait dit depuis longtemps que le Bitcoin, c'était un indicateur de l'appétit au risque des investisseurs. Et là, clairement, on n'avait plus très faim. Le plus intéressant dans cette séquence, c'est pas tant la chute elle-même. Le Bitcoin a déjà fait pire et sans sourcil. Et c'est le rappel brutal d'une vérité que le marché adore oublier. La volatilité n'est pas un bug, c'est le mode de fonctionnement. Ceux qui voyaient une ligne droite vers le ciel redécouvrent que le Bitcoin respire et que ses inspirations ressemblent souvent à des chutes libres. Alors est-ce que c'est la fin du bull market crypto? Non, probablement pas. Est-ce que c'est un rappel que rien ne monte en ligne droite? Absolument. Et également que le Bitcoin fonctionne en cycle. Reste à savoir si le bas du cycle, c'est les 60 000 de vendredi qui feront office de support définitif, ou s'il va falloir souffrir encore un peu, beaucoup, passionnément. En tous les cas, on a appris encore une fois que le marché adore surprendre, surtout ceux qui pensaient avoir tout compris. Et puis alors, il y a aussi la problématique des CAPEX. Ces fameuses dépenses pour développer notre chère intelligence artificielle. Depuis quelques semaines, le marché réalise l'ampleur du pari IA et ça commence à transpirer un tout petit peu. Alphabet, Amazon et les autres ne parlent plus de milliards, ils parlent de centaines de milliards injectés dans des data centers, des puces et des infrastructures méga géantes. Le message est clair, l'IA est devenue une course industrielle, celui qui construit le plus vite espère capter le futur. Pour l'instant, à l'orée de ce mois de février, on a prévu de dépenser en 2026 entre 650 et 700 milliards. À titre d'indication, en 2023 et en 2024, on a dépensé 250 milliards chaque année. En 2025, 380. Le futur coûte donc énormément aujourd'hui et ne rapporte pas encore à la hauteur des investissements. Les revenus progressent, oui, mais pas au rythme de ces dépenses historiques. Résultat, les investisseurs commencent à poser la question la plus simple et la plus brutale de la finance. Ok, et pour le retour sur investissement, c'est pour quand ? On assiste donc à un décalage classique. L'enthousiasme stratégique va plus vite que la rentabilité visible. Big Tech construit l'autoroute de l'IA avant que le trafic soit pleinement monétisé. C'est pas forcément un mauvais pari, et les grandes révolutions technologiques passent toujours par une phase de dépenses massives, mais ça demande du temps et de la patience et des nerfs solides. Le marché, lui, le scie donc entre fascination et prudence. D'un côté, on a tous la conviction que l'IA est le prochain moteur économique majeur, mais de l'autre, la réalité comptable qui rappelle qu'on brûle beaucoup, beaucoup de cash avant de transformer l'essai. Ça fait un petit peu peur. La vraie tension se situe exactement là. Combien de temps les investisseurs vont-ils accepter de financer la vision avant d'exiger des preuves concrètes? Et c'est précisément cette question qui va rythmer les marchés ces prochains mois. La semaine qui vient de s'écouler nous a donc donné un avant-goût de la fatigue et de la patience des investisseurs. Et cette semaine, un miracle de fin de semaine nous a sauvé les fesses alors qu'on était tout simplement au bord du gouffre. Pourvu que ça dure. Et puis, il y a aussi eu un peu de macro cette semaine. Du macro qui a fait grincer les dents du côté des chiffres de l'emploi. Bon, on a déjà eu pas mal de chiffres qui ont été décalés à cause du mini-shutdown. D'ailleurs, les NFP de janvier seront publiés mercredi. Les chiffres du PMI, c'était plutôt encourageant, mais on a quand même appris qu'il y a près de 100 000 personnes qui ont été licenciées en janvier. C'est le pire chiffre depuis 2009. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier déjà. Bon, en 2009, les banques viraient à tour de bras et Lehman Brothers venait de faire faillite. Mais là, c'est différent, mais ça fait beaucoup pour se retrouver en janvier 2009. Et puis, les chiffres ADP sont sortis en dessous des attentes, eux. Ça n'a pas plu des masses, et surtout qu'on peine à comprendre qu'on nous vende une économie plus forte que prévu, une croissance solide et un PIB qui cartonne, mais ça n'a jamais autant viré de monde, paradoxalement. On nous aurait menti ? Bref, la semaine aurait été volatile, violente, et aucune mauvaise nouvelle n'aurait été pardonnée au niveau des publications trimestrielles. Qualcomm, Arm, Amazon, STODER, Novo Nordisk, les sanctions ont été violentes. Mais à la fin de la semaine, après avoir passé dans la machine à laver en cycle S-Orange à plusieurs reprises, on a quand même le Dow Jones qui termine au plus haut de tous les temps, entraîné par 3M, Amgen, Merck et Walmart. Le S&P qui finit presque inchangé et notre bon vieux SMI qui finit au plus haut de tous les temps. quand même. Vu de loin, la semaine n'était pas si mal, mais vu de l'intérieur, il y a pas mal de coups et de bosses qu'il va falloir soigner ces prochaines semaines et prendre le temps que ça cicatrise. On notera encore que la BCE et la Bank of England ont laissé leurs taux inchangés, mais qu'ils surveillent attentivement ce qui se passe. L'inflation sera en train de se calmer pour laisser la place à d'éventuelles nouvelles baisses des taux. En France, le déficit commercial s'est réduit à 69,2 milliards d'euros l'an dernier et les exportations allemandes vers les États-Unis ont chuté de 9,3% en 2025 sous l'effet, bien sûr, des droits de douane et l'excédent commercial du pays avec la première économie mondiale est tombé à son plus bas niveau depuis 2021. En Suisse, le taux de chômage s'affiche à 3,2% en janvier, progressant pour le deuxième mois consécutif. On passe maintenant aux performances de la semaine. Alors si on regarde sur les grands indices, eh bien on se rend compte que le Dow Jones des transports a donc pris 8,7% sur la semaine, l'or reprenait 5%, le Dow Jones tout court progresse de 2,5% et finit donc au plus haut de tous les temps, tout comme la Suisse, de 46% de hausse. La France a fait sauver sa semaine sur la journée de vendredi avec 1,81% de hausse sur la semaine. Le DAX, plus dur le DAX avec 0,74% sur la semaine. Les semi-conducteurs finissent quand même en positif, ce qui est déjà pas mal. Le S&P en baisse de 0,10%, quasiment à l'équilibre. Et quand on voit où était le marché jeudi soir, c'était pas gagné. Et puis le pétrole, je vous le disais, lui, il va dans tous les sens. Hein. En haut, en bas, il peut être dans 5 minutes, 4% plus haut. Il suffirait que les Iraniens s'énervent ou les Américains s'énervent. Quand on écoute les discours des Iraniens, je pense que Trump, il va s'énerver dans pas longtemps. Donc on n'a pas fini de voir le pétrole bouger dans tous les sens. L'argent s'est fait déglinguer, termine en baisse de 7%. Et le Bitcoin, on en a parlé, il abandonne 14% ou presque sur la semaine. Et sur le SMI, eh bien, les leaders de la semaine, vous le voyez, hein, c'est des boîtes comme Nestlé qui prennent 7,44%. Là, c'est plus un effet de base parce que c'est moins pire qu'avant. Geberit reprend 5,63%. Il y a eu des rumeurs positives au niveau de la construction aux États-Unis. On en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. Logitech reprend 5,58%. Elle a aussi tellement cotisé la semaine précédente qu'il y avait une séance de récupération. Même chose pour Sika. Novartis plus 4,66% après leur bon chiffre. Pas extrêmement excitant, mais leur bon chiffre. Là aussi, on va en reparler un peu. Zurich termine en hausse de 4,37%. Ils ont enfin réussi à acheter leur... Enfin, ils ont augmenté leur offre sur cette fameuse assurance britannique. On verra si ça suffit. Et puis, en queue de peloton, on notera UBS qui perd 7%, malgré des chiffres relativement bons. Là aussi, on va rediscuter de l'UBS par rapport à sa dette et à ses capitaux nécessaires pour garantir la réassurance du Conseil fédéral. Ça, on en reparlera un bout plus loin. Là aussi, ça paraît quand même un petit peu scandaleux, la baisse de l'UBS, mais c'est nouveau à cause de ses capitaux et ses fonds propres. Et puis Partners Group qui perd 7,8%. Alors eux, on peut expliquer la baisse parce qu'il semblerait qu'ils ont quand même pas mal d'exposition au niveau des softwares. Et comme vous l'avez vu, eh bien, les softwares se sont littéralement fait massacrer la semaine dernière. Donc ça a eu des conséquences jusqu'en Suisse, jusque sur notre fameux de fonds de private equity suisse, Partners Group. Passons maintenant au graphique. Alors, vous avez donc le SMI. Vous voyez qu'on a, de nouveau, c'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment des cas d'école en ce moment. On est venu chercher, vous voyez, cette ancienne résistance qu'on avait ici, qui passait par 13 000. On est venu la chercher l'autre jour. On a cassé la moyenne mobile et direct derrière, bam, on remonte pour aller chercher les plus hauts historiques en fin de semaine. Deux fois plus haut historique cette semaine. On est revenu sur les niveaux qu'on avait déjà testés à 13 500. Maintenant, on va probablement essayer d'aller tirer en direction des 13 750 sur le SMI pour aller chercher le haut de cette ancienne tendance haussière, voir si on arrive à la réintégrer pour aller chercher ensuite, bien sûr, les 14 000 sur la Suisse. Le S&P 500, là aussi, vous voyez, donc là, on a cassé en fin de semaine plutôt, jeudi matin, jeudi soir, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours, on a cassé le support, cette tendance qu'on avait ici. Vous voyez que j'avais tracé déjà qui passait par ces points-là. On avait cette tendance de support. J'avais éliminé l'exagération là, mais on avait une forme de support. Ça a cassé également. On sort de la tendance. Et là, on se dit, aïe, c'est mal barré. Et ben non, en fait, on a rebondi pile poil. Alors après, si on veut chercher de nouveau des supports, on en trouvera plein. La question n'est pas là. Mais si on va, par exemple, mettre un support ici. Ouais, si je me mets là et je tire là. Et ben paf, ça faisait exactement le support au même endroit. Donc, il y avait une point d'explication qui pouvait justifier le rebond, en tout cas l'empêchement d'aller plus bas. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a eu ce sell-off de jeudi soir qui a été littéralement nettoyé vendredi. Et ça, généralement, ce genre de configuration haussière, vous le voyez, même ici, la même chose plus ou moins là, eh bien c'est des signaux de rebond assez forts en termes de candlestick. Donc là, on peut de nouveau se dire qu'on va aller rechercher les 7000, voir si on nous tape dessus pour empêcher d'aller plus haut encore une fois. Regardez le SOX, là aussi, rebond spectaculaire en s'appuyant directement sur la moyenne mobile des 50 jours. Là aussi, on est venu se poser dessus et direct derrière, on a rebondi. Vous voyez que les mouvements sont quand même spectaculaires parce qu'au pire de la semaine, on était quand même vachement mal au point et on finit inchangé après avoir récupéré quasiment 600 points sur le SOX. Le Nasdaq, il a plus de peine. Hein, vous voyez que dans les extrêmes, on était allé chercher quand même relativement bas. On perdait 5% au pire de la semaine. Et puis finalement, on l'a quand même bien récupéré sur la dernière séance là aussi. Le rebond est spectaculaire, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faudra venir aller récupérer cette tendance qu'on a ici et puis casser la moyenne mobile des 50 jours qu'on a cassé en milieu de semaine également. Et puis donc le Dow Jones, vous voyez, qui est allé chercher donc ses plus hauts historiques. La cassure est nette. J'avais fait cette espèce de flèche avant, et ben vous voyez qu'on a vraiment été chercher ça. On avait une résistance ici à 49 000 et des brouettes. Cassé plus accélération derrière, 50 115, nouveau plus haut historique sur le Dow Jones. Un graphique que je vous montre jamais, mais je vous le montre quand même aujourd'hui, c'est le graphique des softwares. Voilà, donc de tous l'ensemble des softwares américains. Vous voyez la performance de l'indice, c'est spectaculaire. Alors, je ne sais pas si on peut essayer d'en tirer des conclusions, mais vous voyez quand même qu'on est revenu chercher de nouveau ces zones d'hésitation ici, 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 ici. Donc voilà, si on vient casser, on va dire, cette zone-là, les 8850 où on est, on peut dire qu'on va peut-être aller chercher les 8000, parce qu'il faut aller chercher les exagérations une fois pour toutes, mais franchement, si ça casse, ça ira beaucoup, beaucoup plus bas. Mais j'ai l'impression que si on vient vraiment casser ces niveaux, c'est qu'on va anticiper le fait que finalement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le business des softwares, c'est mort. L'Allemagne qui pinaille là-haut, qui n'arrive pas à revenir dans cette zone d'accélération. Donc là, elle bute de nouveau sur cette espèce d'ancienne résistance qu'on avait ici au niveau des 24 720. Ce sera le point à casser la semaine prochaine si on veut aller chercher plus haut. Le CAC 40 qui est bien remonté aussi, qui est de nouveau en direction des plus hauts historiques, mais qui n'y est pas encore. Il y a encore un peu de travail à faire, malgré la tôle qui se sont pris sur LVMH. C'est impressionnant de les voir à ce niveau-là. À noter que Total publiera ses résultats cette semaine. Ce sera assez important pour le CAC 40 également. Ça, je vous le montre, mais je ne vais pas le commenter parce que quand vous voyez les mouvements, si on zoome dessus, vous voyez ce qu'on a fait en l'espace d'une semaine. C'est complètement délirant. Complètement délirant. Il n'y a pas d'autre terme. Extrême haut 5090, extrême bas sur l'or 4399. Voilà, ça se passe de commentaires. Ça fait quoi? Ça fait 700 points de volatilité sur le gold. C'est complètement débile. Et l'or est devenu clairement, je le disais tout à l'heure, un meme stock, tout comme l'argent. Regardez les mouvements et l'amplitude des mouvements sur l'or ces derniers temps. C'est microscopique, c'est des petites journées. Et là, on se fait un truc de dingue. Là, il est en train de se passer un truc. Tout le monde est en train de prendre l'or comme un instrument de spéculation. Et un jour ou l'autre, il risque d'avoir du sang sur les murs, probablement. Il y a de plus en plus de produits qui sont créés dessus, donc plus en plus de volatilité. Et pas forcément la liquidité qui va avec, donc méfiance quand même. C'est un peu dangereux comme jeu, mais bon, pour ceux qui font du trading, c'est une bonne alternative. Le crude oil, le pétrole, alors là aussi, pareil, hein, en haut, en bas, tu sais pas où tu vas. Hein, donc toute la semaine, je t'aime moi non plus à Téhéran avec les Américains. Et en fonction de ça, eh ben, vous avez une direction plus ou moins donnée sur le pétrole. Pour l'instant, là aussi, sur la semaine, on a un bas à 61,23 et on a un haut à 66,50. Ça vous donne quand même une bonne idée de l'espèce de marché schizophrène et bipolaire dans lequel on est en ce moment, sur l'or, sur le pétrole, sur le Bitcoin, sur certaines assets là, sur certains secteurs. Donc vraiment, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de trading d'algo, et plus grand chose qui fait vraiment du sens. Regardez maintenant le Bitcoin, alors j'en parlais tout à l'heure, hein. Donc on est allé faire ces extrêmes à 60 000, là aujourd'hui, maintenant, à l'instant où je vous parle, samedi après-midi, on est à 60 837 sur le Bitcoin, donc ça remonte de nouveau, on a quand même repris 8 900 points, ça fait un sacré rebond en termes de pourcentage quand même, pour un truc qui est soi-disant complètement has-been. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, ça vaudra peut-être la peine de se repositionner, parce que si vous vous rappelez bien, chaque fois qu'on a eu des claques monumentales sur Bitcoin, derrière, on a eu des rebonds qui ont quand même été spectaculaires, et pourtant, on a souvent eu envie de rendre les armes. Souvenez-vous du retour à 50 000 au mois de septembre 2024, juillet, pour l'été 2024. Quand même, on est passé de 70 000 à 50 000. Là aussi, ça fait des swings monumentaux. Et là, on revient tester un chiffre rond de nouveau, les 60 000. Et souvenez-vous quand même que les 60 000 étaient quand même une zone relativement importante durant cette période-là. Alors, je ne suis pas expert en Bitcoin, pour ça je vous recommanderais de vous référer à mon collègue Vincent Gann et voir ce qu'il en pense. Mais on a l'impression qu'on est en train de chercher des zones d'exagération. Alors, la problématique, quand on vient tester ces zones d'exagération, c'est qu'on peut aller chercher les 50 000, les 40 000 sans aucun problème. Une fois qu'ils auront purgé les marchés et dégoûté tout le monde, eh bien, les gros players pourront racheter et attendre gentiment que finalement le Bitcoin remonte à 500 000 comme l'avait promis le patron de Strategy, qui n'a pas tout à fait pensé la même chose aujourd'hui. On attaque avec les vedettes de la semaine et on commence par Julius Baer. Julius Baer qui vient de publier des résultats qui ressemblent à une opération grand nettoyage de printemps en cours. La banque digère encore des pertes de crédit héritées du dossier Signa, mais la pression diminue nettement au second semestre. Résultat, le bénéfice rebondit, les coûts reculent, tandis que l'activité sous-jacente, commission, trading et collecte montrent une vraie solidité. Le point clé, c'est que le business fonctionne, même si les cicatrices du passé pèsent encore sur les chiffres officiels. La direction serre les dépenses plus fort que prévu et pose les bases d'un nouveau cycle de rationalisation pour 2026-2028. Le ratio coût-revenu reste élevé, prouve que le chantier n'est pas terminé, mais la trajectoire est claire, simplifiée pour restaurer la rentabilité et, si j'osais, je dirais la confiance. Côté bilan, la capitalisation s'améliore franchement, ouvrant la porte, en théorie, à un retour des rachats d'actions, sous réserve d'acceptation du régulateur. Le message global, Julius Baer tourne progressivement la page. Rien de spectaculaire, mais une banque qui nettoie ses vieux dossiers tout en préparant la suite. Le marché reste prudent, mais la mécanique interne paraît quand même plus saine qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Voilà Julius Baer, on voit quand même qu'on a pas mal anticipé quand même ce retour en grâce, puisque les problèmes datent de cette période-là. Vous voyez le crash qu'on s'est fait, consolidation, et puis là depuis quand même fin de l'année dernière, eh ben, gentiment on repart. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui devaient s'attendre à cette publication relativement intéressante. On va dire que les gens qui étaient plus égaux que les autres et mieux informés. Mais en tout cas, le graphique semble pas mal. Et la prochaine étape, ce sera de retourner au-dessus des 70 francs suisses. Mais ça n'a pas l'air d'être impossible pour Julius Baer en ce moment. À voir d'où elle revient, rien ne semble impossible pour elle. Toujours au secteur bancaire, eh bien, UBS a publié un trimestre qui confirme une chose. La machine tourne, la machine fonctionne, même en fin de digestion de la fusion avec le Crédit Suisse. Les revenus reculent un peu, les coûts augmentent un petit peu, mais le bénéfice dépasse clairement les attentes, signe d'une discipline opérationnelle intacte. La gestion de fortune, cœur du modèle, améliore même ses objectifs de marge, preuve que la rentabilité sous-jacente reste quand même vachement solide. Les pertes de crédit se stabilisent, la fiscalité se normalise, et UBS affiche donc suffisamment de confiance pour relever son dividende tout en maintenant ses rachats d'actions. Autrement dit, la génération de capital tient bon. La vraie inconnue reste réglementaire puisque le régulateur suisse doit trancher sur les exigences du capital CET1. Alors pour ceux qui ont un doute, le CET1 c'est le Common Equity Tier 1. C'est tout simplement le coussin de sécurité principal d'une banque. C'est le capital de la plus haute qualité, actions plus bénéfices mis en réserve, que la banque doit garder pour absorber les pertes en cas de coup dur. On le compare à la taille du bilan, plus le ratio CET1 est élevé, plus la banque est considérée comme solide. Et en version simple, eh bien, c'est l'airbag financier d'une banque. Plus il est gros, plus elle peut encaisser des chocs sans se crasher. Même dans le scénario le plus strict, UBS estime néanmoins que l'impact est absorbable. Le recul du titre reflète surtout cette incertitude. Pas vraiment une faiblesse opérationnelle, loin de là. En clair, performance solide, bruit réglementaire et une banque qui semble prête à encaisser la suite et prêt au combat contre le Conseil fédéral. Donc vous voyez la sanction. Franchement, quand on voit la qualité des résultats, à moins que le gouvernement suisse décide de vraiment, excusez-moi du terme, venir foutre la merde dans cette histoire, je vois pas pourquoi on la sanctionne à ce point-là. On peut envisager dans le pire du pire un retour sur les 29-30, mais franchement là, ça me paraît vraiment pas cher. En plus, on est allé combler les gaps ici. Je suis pas un fan des bancaires, donc je toucherai pas, mais quand même, on a un peu l'impression qu'on a retrouvé des niveaux plutôt intéressants et que c'est un peu injuste ce qui s'est passé cette semaine. Novartis entre en 2026 avec un problème très classique dans la pharma. Les vieux blockbusters arrivent en fin de cycle et les génériques frappent plus fort que prévu à la porte d'entrée. Le choc s'appelle Entresto, la vache à lait cardiaque dont les ventes ont plongé de 43% sur le dernier trimestre. Tassinia et Promacta suivent le même chemin. Résultat, un chiffre d'affaires qui stagne, un bénéfice qui recule et une direction qui annonce clairement que l'année qui arrive sera une phase de digestion. Le premier semestre s'annonce sous pression, avec des ventes attendues en baisse et une rentabilité qui risque de souffrir. Mais le management parie quand même sur un redémarrage en seconde partie d'année, porté par la nouvelle génération de traitements, Kisqali, Scemblix, Kesimpta, et par les acquisitions récentes destinées à compenser la perte d'exclusivité des anciens piliers. Le message de fond est relativement simple. Oui, la transition va faire mal, mais elle est intégrée dans la stratégie. Novartis vise toujours une croissance solide à moyen terme, même si le marché reste prudent face à cette période de turbulence. En clair, le groupe change de moteur en plein vol. C'est jamais confortable, mais c'est le passage obligé pour relancer la machine. Mais par contre, alors, bonne nouvelle, le patron s'est pris 25 millions de bonus cette année, enfin, pour 2025. Je vous dis tout de suite, moi, il ne faut jamais me filer 25 millions de bonus parce que je reviens pas au boulot le lundi matin. Novartis, alors les chiffres, comme vous le voyez, les chiffres n'étaient pas extraordinaires, les perspectives sont pas hyper sexy, mais bon, c'est pas grave, ça monte quand même. Donc on est allé chercher les 120 quasiment sur Novartis, on les a payés d'ailleurs, mais on termine juste en dessous des 120. Donc là, pour l'instant, la porte est ouverte à toutes les fenêtres chez Novartis et on peut monter encore un bon bout. Si on regarde l'amplitude du mouvement qu'on a construit ici et qu'on est en train de casser maintenant, franchement, il y a encore vachement de marge à la hausse pour aller chercher largement les 130-135 francs suisses sur Novartis. D'un point de vue purement technique, maintenant, il va falloir délivrer sur ces nouveaux médicaments, comme on vient de l'expliquer. On passe maintenant au en vrac de la semaine. On commence par Swatch, qui avait dévoilé une rentabilité en chute pour 2025. Le bénéfice net plonge à 25 millions de francs suisses contre 219 millions en 2024. L'horloger avait attribué ce phénomène au renoncement délibéré à recourir au chômage partiel. Et puis, ça s'est très très mal passé. Enfin, très très mal passé, elle avait beaucoup monté la semaine précédente, mais là, ça baissait assez fort. La banque cantonale de Zoug a enregistré des résultats en hausse sur l'exercice 2025. Le CA pourra proposer à ses actionnaires un dividende de 230 francs suisses par action, contre 220 l'an dernier. Le géant verniolant des arômes et parfums Givaudan investit une centaine de millions de dollars dans la construction d'une nouvelle usine au Mexique. RNS s'est envolé après un chiffre d'affaires 2025 amélioré de moitié et des perspectives optimistes. De plus, il y a une banque qui a relevé la recommandation à buy. Medacta a vu son chiffre d'affaires continuer sa forte progression en 2025. Aurel Fusli a acquis via sa filiale Aurel Fusli Thalia les 13 papeteries de la société à Kohler. Zurich Assurance a une nouvelle fois relevé son offre sur le britannique Beazley. L'offre est dorénavant à 8 milliards de livres sterling. On verra si ça va suffire. Wendel a annoncé avoir signé un accord de cession de Stahl, dans lequel Clarion détient une participation de 14,6%. AMS Osram, le spécialiste des semi-conducteurs, a annoncé la cession de son activité de capteur de signaux analogiques de mixte non optique pour l'automobile, l'industrie et la médecine à Infineon pour 570 millions d'euros. Dormakaba a acquis pour un montant qu'on ne connaît pas son concurrent australien Vintech Systems. Sunrise a annoncé 147 licenciements à l'issue d'une introspection sur l'efficience de la boîte. Valiant est parvenu à augmenter son bénéfice net en 2025, malgré un repli du produit d'exploitation. Georg Fischer a obtenu l'autorisation de l'UE pour la vente de sa division Casting Solutions, spécialisée dans la fonte de métaux légers, à l'équipementier mexicain Nemak. LEM a terminé en hausse de 15%. Le groupe industriel genevois a vu ses recettes et sa rentabilité opérationnelle s'étioler sur les 9 premiers mois décalés. Mais par contre, ils ont relevé leurs objectifs. Fontobel a publié un bénéfice net et des afflux d'argent frais en hausse pour l'année passée. Stadler Rail a gagné du terrain également. Le spécialiste du matériel roulant a annoncé avoir chopé un contrat avec Siemens pour la livraison de 226 rames entièrement automatisés sur le S-Bahn de Copenhague. Ça représente 3 milliards d'euros. Et puis MSKMI a reculé un peu cette semaine. Le chimiste Grison a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 467 millions de francs suisses, agrémenté, augmenté de 1,2% sur un an, alors que le chiffre d'affaires a essuyé un repli de presque 6% à 1,95 milliard. Et puis, il y a eu une belle fin de semaine pour Amrize, Holcim et Stroman, parce qu'il y a des rumeurs d'un large programme de soutien à la construction de logements aux États-Unis qui serait en train de se mettre en place. Conditionnel, mais rumeurs relayées dans la presse d'outre-Atlantique. Lundi, on repart donc pour une semaine qui risque d'être un peu sur le même modèle. Visiblement, les algos ont définitivement pris le pouvoir. Il va falloir composer avec. Nous aurons donc encore pas mal de chiffres trimestriels. Les grands noms sont derrière nous. mais on aura quand même du monde comme Cisco, Shopify, Coca, McDo, Ferrari, Robinhood, CVS, Marriott, Applied Materials, Coinbase, Moderna, AstraZeneca, Ford, mais encore Kering, Total, L'Oréal, Hermès, Siemens et Schindler sous nom contré. Et côté macro, on aura les chiffres de l'emploi du mois de janvier et le CPI américain. Ce sera les deux gros morceaux de la semaine. Et c'est tout ce qu'il y avait grosso modo à dire. Une semaine où le marché nous a rappelé une chose très simple, il ne nous doit rien et il a le droit de faire ce qu'il veut avec nous. On a été secoués dans tous les sens, pris à contre-pied presque chaque jour et pourtant, à la fin, les indices tiennent, certains même au plus haut de tous les temps. Comme quoi, dans ce marché dominé par les algos, la seule certitude, c'est qu'il n'y en a aucune de certitude. Et la leçon qu'il faut en retenir, c'est respirer, discipline et ne pas confondre agitation et tendance boursière. On repart lundi avec une nouvelle fournée de chiffres, du macro, de la volatilité et probablement encore quelques grandes surprises. Gardez la machine à laver en mode essorage pas trop loin de vous. Restez attachés, gardez la tête froide et souvenez-vous, dans ce marché, survivre, c'est déjà une sacrée performance. Si cette vidéo vous a aidé à mettre un peu d'ordre dans le chaos ambiant, alors on s'abonne, on like, on partage. Ça aide à rester motivé, pour nous en tout cas, pour moi, même en cycle essorage. On se retrouve très vite. Pas plus tard que lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et très très bonne suite de week-end à tous. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.